السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Donc la dernière fois on s'est arrêté dans la bataille de Uhud, au tout début de la bataille. On a expliqué qu'il y avait une série de duels dans laquelle 11 des idolâtres ont été tués en quelques instants, puisqu'ils ont essayé de garder haut leur étendard. Tout d'abord, Siba ibn Abd al-Uzza, dans le duel qu'il a eu avec Hamza ibn Abd al-Muttalib. Ensuite, Talha ibn Uthman avec Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. Ensuite, Talha ibn Abi Talha. Ensuite, son frère, Abu Shaybah, Uthman ibn Abi Talha. Ensuite, son autre frère, Abu Sa'id ibn Abi Talha. Ensuite, le fils de Talha ibn Abi Talha, c'est-à-dire Talha ibn Talha ibn Abi Talha. Ensuite, le Julas, Musafi' pas Talha ibn Talha, mais innama Musafi' ibn Talha ibn Abi Talha. Le Julas ibn Talha ibn Abi Talha, également Kilab ibn Talha ibn Abi Talha, et ensuite trois autres personnes parmi les Bani Abdiddar, Arta ibn Shurahbil, et Shuraih ibn Qarid, et enfin Shurah ibn Hashim. Et on avait parlé du fait que les deux camps, les deux armées se sont affrontées. Donc l'attaque générale a commencé après cette série de duels. Et l'étendard des idolâtres reste à terre. Et c'est l'étendard des musulmans qui est haut. Et ça symbolise le dessus des musulmans. En tous les cas, pour le début de la bataille de Uhud, ça symbolise le début, le dessus de l'armée prophétique sur l'armée idolâtre, même si on verra que la donne va changer. Et donc, le début de cette bataille, c'est un triomphe sans appel des musulmans. Et on a illustré ce triomphe par certains compagnons et leur courage et comment ils se sont comportés pendant cette bataille. Et on s'est intéressé la semaine dernière au cas du compagnon Abu Dujana, radiyallahu anhu, qui a reçu l'épée du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il a pris l'épée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il a mis un bandeau autour de sa tête, un bandeau rouge. Et les compagnons, quand ils l'ont vu mettre le bandeau, ils disaient, quand il met son bandeau, on sait que khlas, là, il va vraiment combattre, sérieusement. Et c'est Zubayr ibn al-Awwam qui dit, lorsque je l'ai vu recevoir l'épée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et que je l'ai vu mettre autour de sa tête ce bandeau, je l'ai observé pendant la bataille pour voir ce qu'il allait faire. Et il a dit, et j'ai vu que لا يرتفع له شيء إلا هتكه وأفر به. À chaque fois qu'une chose s'élevait devant lui, quelqu'un s'élevait devant lui pour l'affronter, il le faisait tomber d'un coup d'épée. rien n'était debout devant lui. Jusqu'à ce qu'il arrive à une personne, une personne avec son casque, etc., on ne reconnaît pas cette personne au début, qui était en train, il dit « Kana yakhmishu fi an-nasi khamshan shadidan ». Il griffait, il frappait les gens très fort, il faisait du tort aux gens, et les gens, c'est comme s'ils ne se défendaient pas, ils se laissaient faire. Et donc Abu Dujana, il est parti vers cette personne, et il a brandi son épée, et au moment de frapper sur la tête de cette personne, finalement, au dernier moment, il a enlevé son épée, il est parti. Et Zubayr ibn al-Awwam va lui demander des explications après la bataille, et il va expliquer, il va dire, je pensais que c'était un homme, mais quand je me suis approché et que j'ai voulu frapper, c'était Hind bint Utba, la femme d'Abu Sufyan. Et je respecte trop l'épée du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'utiliser pour frapper avec une femme. Non. Et aussi, Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu nous dit, il y avait un homme parmi les idolâtres qui allait vers les blessés musulmans. Il était tellement lâche qu'il n'affrontait pas les gens debout. Il affrontait les blessés, il trouvait les blessés et il les achevait. Pour ne leur laisser aucune chance de survie. Et il dit, et j'ai invoqué, imploré à Allah que les deux se rencontrent, Abu Dujana et cet homme lâche qui s'en prenait aux blessés. Et il a dit, ils se sont croisés. Et évidemment, Abu Dujana, radiyallahu anhu, lui a donné ce qu'il méritait. Aujourd'hui, on avait dit la semaine dernière qu'on voulait s'intéresser au compagnon Hanzala ibn Abi Amir, radiyallahu anhu. Et avant de parler de Hanzala ibn Abi Amir, radiyallahu anhu, pour ne pas l'oublier, il y a quelqu'un dont on doit absolument parler. C'est le compagnon Abdullah ibn Amr ibn Haram, radiyallahu anhu. Le compagnon Abdullah ibn Amr ibn Haram. C'est le père d'un compagnon. Il est lui compagnon et il est père d'un compagnon. Un compagnon très connu qui a rapporté beaucoup de hadiths. Ce compagnon, son fils, c'est qui ? C'est Jabir ibn Abdillah, radiyallahu anhu. Et nous, on veut parler de qui ? De son père, qui était compagnon, qui était dans cette armée. Abdullah ibn Amr ibn Haram. Pourquoi on veut parler de lui ? Parce que même si on a dit que dans ce début de bataille de Uhud, ce sont les musulmans qui ont le dessus, qui sont en train de gagner la bataille, une bataille, ça ne se gagne pas sans perte et sans mort. Et Abdullah ibn Amr ibn Haram est le premier compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à mourir, à tomber en martyr dans la bataille de Uhud. Et Abdullah ibn Amr ibn Haram le savait, il pressentait non seulement qu'il allait mourir à Uhud, c'est une chose déjà de pressentir quand on va à la guerre qu'on va y mourir, parce que c'est un risque qu'on prend. Mais lui, non seulement il pressentait qu'il n'allait pas revenir de cette bataille, mais surtout il pressentait en plus de ça qu'il allait être le premier à mourir dans la bataille de Uhud. Puisqu'il est rapporté dans l'authentique de l'Bukhari, donc c'est une version authentique, que justement son fils, Jabir ibn Abdillah, il raconte et il dit « Lamma hadara Uhudun da'ani abi min al-layl » Quand le moment de la bataille de Uhud est arrivé, la veille, pendant la nuit, juste avant de partir, on a vu qu'ils étaient partis pendant la nuit de Médine, l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit donc la nuit, le soir, la veille, mon père m'a appelé. Donc son père, il s'est préparé pour la bataille de Uhud. D'ailleurs, dans d'autres versions, on nous dit que lui aussi, Jabir ibn Abdullah, voulait y participer, mais il est le seul garçon qu'il a et il laissait beaucoup de filles. Et donc il lui a dit, non, j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose et il n'y aura pour tes sœurs plus personne qui va s'occuper d'elle, ni moi ni toi. Donc toi reste et moi j'y vais. Et donc, il dit dans cette version de l'Bukhari, authentifiée par l'Bukhari, « Lamma hadara Uhudun da'ani abi min al-layl » Lorsque la bataille de Uhud est arrivée, mon père m'a appelé pendant la nuit. Et il m'a dit, ما أراني إلا مقتولا من في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. Je ne me vois que comme mort parmi les premiers qui vont être tués dans cette bataille. Annie explique à son fils, je ne vois que ça, c'est-à-dire je ressens ça. J'en suis sûr, j'ai ce pressentiment, j'ai cette certitude au fond de moi que je vais faire partie des premiers qui vont mourir dans cette bataille. وَلَا أَتْرُكُ أَعَزَّ عَلَيَّ مِنْكَ غَيْرَ نَفْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Et je ne laisse après moi sur terre, je ressens que je vais mourir. Je vais faire partie des premiers à mourir dans la bataille de Uhud. Et sache, il dit à son fils, sache qu'il n'y a pas sur terre, après la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un qui m'est aussi cher que toi. Sur terre, après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas quelqu'un que j'aime autant que toi. Déjà dans cette phrase, on voit yani, la position de ce compagnon. Il sent qu'il va mourir. Et donc il donne ses dernières volontés à son fils. Et c'est pas juste, là, il va lui donner, on ne sait pas encore c'est quoi ses dernières volontés, mais on va les expliquer dans le hadith, elles sont citées. Donc il va les lui donner. Mais avant de les lui donner, il lui explique que s'il lui donne sa dernière volonté à lui, s'il le choisit lui, c'est parce qu'il n'y a pas, parmi les personnes qu'il chérit, quelqu'un qu'il aime autant que lui, après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bien évidemment, parmi les hommes. Et donc ça montre l'amour que ce compagnon a pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tout d'abord, et ensuite, toute l'affection qu'il porte pour son fils, et surtout, le fait qu'il le lui dise. Il dit à son fils qu'il l'aime. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de tabou, de aïd. Sauf quand c'est pour dire dans le haram avec une telle ou une telle. Là, il n'y a pas de tabou. Non. Mais quand il s'agit de dire « Uhibbuka fillah » ou de dire à son frère ou à sa sœur ou à ses parents ou à ses enfants, là, c'est beaucoup plus compliqué. Non. Et donc, on voit ici qu'il lui montre son amour. Il le montre par une attitude, il va lui donner ses dernières volontés, il l'appelle, il se confie à lui. Donc il lui montre son amour, et surtout, en plus de lui montrer, il lui exprime par des mots clairs, explicites, qu'il l'aime. Comme le professeur Hassan avait l'habitude de le faire avec ses compagnons. Ce n'est pas étonnant qu'il le fasse, parce qu'il a été éduqué par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il voulait parler à ses compagnons, quand il voulait leur donner un conseil, surtout aux plus jeunes, comme Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, un jour il l'appelle et lui dit « Ya Mu'adh, wallahi inni la uhibbuka fillah. » « Oh Mu'adh, wallahi, je jure par Allah, wallah que je t'aime en Allah. » Et ensuite il lui a donné une recommandation. Et donc, on voit ici comment ses compagnons reproduisent finalement ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur enseignait. Donc il lui dit à son fils, je sens que je vais mourir dans cette bataille, que je ferai partie des premiers qui vont mourir dans cette bataille. Et il n'y a pas une personne que j'aime autant après le prophète sallallahu alayhi wa sallam que toi. Wa inna alayya daynan. Et j'ai des dettes. Faqdi. Alors rembourse mes dettes. Parce que je sens que je ne vais pas revenir pour pouvoir les rembourser, rembourse mes dettes. Il lui dit faqdi. Wastawsi bi akhawatika khayra. Et occupe-toi bien de tes sœurs. Parce que, comme on l'avait dit, il avait une grande famille et il n'y avait que des filles. Son seul garçon, c'était Jabir ibn Abdillah. Je lui dis donc occupe-toi de mes dettes. Va voir mes créanciers et arrange-toi avec eux pour leur rembourser mes dettes. Et occupe-toi de tes sœurs. » On voit que Jabir ibn Abdillah, radiallahu anhu, dans d'autres versions qui nous sont rapportées, qu'il va respecter à la lettre ce que le prophète, ce que son père, Abdullah ibn Amr ibn Haram, va lui demander de faire. À un tel point que lorsque le prophète Hassan lui conseillera, parce qu'il n'était pas encore marié, de se marier, le prophète Hassan va lui conseiller de prendre une jeune femme pour débuter, entre guillemets, sa vie de couple. Et il va dire non. Jabir ibn Abdillah, il va dire non, je préfère prendre une femme bien plus mature et bien plus mûre qu'une jeune femme. Pourquoi ? Le prophète Hassan va lui demander pourquoi. Et il va dire parce que mon père m'a demandé de bien m'occuper de mes sœurs et elles ont besoin comme d'une mère, comme d'une deuxième mère pour s'occuper d'elles, puisqu'il n'y a plus mon père. Non. Et donc, je ne me marie pas que pour moi, je me marie pour moi, mais aussi en pensant à ce que mes sœurs qui vivent avec moi et qui sont à ma charge ont besoin. Et ça, c'est quelque chose qui manque à beaucoup de nos jeunes lorsqu'ils viennent et qu'ils s'apprêtent à se marier. Il voit ce qu'il a besoin lui, ce qu'il veut lui, ce qu'il désire lui, et même pas pour toute sa vie. Si au moins il réfléchissait à ce qu'il aura besoin pour toute sa vie, pourquoi pas ? Il regarde ce qu'il a besoin là maintenant, en tant que jeune de 20 ans, 21 ans, 22 ans, 25 ans, ce qui lui plaît maintenant, et il oublie qu'un jour il aura 40 ans, qu'il en aura peut-être 60, qu'il aura des enfants, qu'il aura des petits-enfants, et que la personne qu'il choisit avec qui il se marie est supposée rester avec lui toute la vie. Quelle sera la mère de ses enfants, quelle sera la grand-mère de ses petits-enfants, etc., etc. Et malheureusement, ce manque de réflexion, de sagesse dans le choix de l'épouse ou dans le choix de l'époux pour les femmes, conduit à ce qu'on vit aujourd'hui, la multitude et la propagation des divorces. « Ala kulli hal » Jabir ibn Abdillah, toujours dans la version qui a été authentifiée par le Bukhari, son père lui dit « Occupe-toi donc de mes dettes et occupe-toi de tes sœurs. » Et Jabir ibn Abdillah, qui nous raconte ce que son père lui a dit, il termine par dire « Fa'asbahna fa'kana awwala qatil » Et lorsque le lendemain est arrivé, puisqu'il lui a parlé la veille, juste avant de partir pour la bataille de Uhud, le vendredi soir, et le samedi matin, il y a eu la bataille de Uhud. Il dit « Falamma asbahna » Et lorsque le lendemain matin est arrivé, « Kana awwala qatil » Il était le premier tué. « Kana awwala qatil » Il était le premier tué. Donc son pressentiment s'est réalisé. Il a dit « Je ressens » Lui, il n'a pas dit le tout premier. Il a dit « Je ressens que je vais faire partie des tout premiers qui vont » Donc les tout premiers, ça veut dire peut-être le premier, le deuxième, le troisième, Mouhim dans les premiers groupes des gens qui vont mourir. Et son fils, Jabir ibn Abdillah, nous dit « Falamma asbahna kana awwala qatil » Et lorsque le lendemain matin est arrivé, son père, Abdullah ibn Amr ibn Haram, a fait partie des tout premiers. Il a été le premier même, il dit. Il a été le premier tué. Non. Donc le premier compagnon à mourir en martyr, malgré la victoire débutante des musulmans. Les musulmans sont en train de gagner, mais comme on a dit, la victoire elle ne se fait pas sans perte, sans sacrifice. Le premier compagnon à tomber en martyr dans la bataille de Uhud, c'est Abdullah ibn Amr ibn Haram, le père du compagnon Jabir ibn Abdillah. Abdullah ibn Amr ibn Haram, c'est pas n'importe qui. Abdullah ibn Amr ibn Haram, radiyallahu anhu, dans une version qui nous est rapportée par Ibn Hibban, on nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Jazallahu al-ansara anna khayran, la siyama Abdullah ibn Amr ibn Haram wa Sa'd ibn Ubadah, radiyallahu anhuma. » Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cette version, qu'Allah récompense les Ansar. C'est qui les Ansar ? C'est les compagnons de Médine. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle des bienfaits des Ansar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de parler des compagnons de Médine et de faire leurs éloges. Pourquoi ? Parce que les compagnons de Médine, ce sont ceux qui ne devaient rien, absolument rien, au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui pourtant, malgré ne rien lui devoir, ils vont sacrifier de leur argent, de leur vie. Ils vont devenir les ennemis de toutes les tribus arabes de la péninsule à l'époque. Pourquoi ? Parce qu'ils vont défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et parce qu'ils vont lui proposer refuge. Ils habitent à 500 et quelques kilomètres de la Mecque. Donc ils ne sont même pas concernés par cette histoire de l'islam, etc. Et pourtant, ils vont se convertir à l'islam et ils vont offrir refuge au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils vont sacrifier. Et ça va leur causer beaucoup de tort. Mais ils sont prêts à accepter tous ces torts. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a l'habitude de faire les éloges et les compliments à Afwan des Ansar, les compagnons de Médine. Et ici, dans ce hadith, dans cette version rapportée par Ibn Hibban, on nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Jazallahu anna al-ansar khayra » qu'Allah récompense pour nous, pour ce qu'ils ont fait pour nous, les Ansar de la meilleure des récompenses. Et en particulier, il dit « La siyama » et en particulier parmi les Ansar, qu'Allah récompense Abdullah ibn Amr ibn Haram. Qui parmi nous a déjà entendu parler de ce nom, de ce compagnon ? Il n'a pas fait grand-chose, entre guillemets, il n'a pas vécu longtemps. Il n'a pas fait grand-chose en termes de longévité, mais il a fait bien plus que d'autres, malgré le peu de temps qu'il a vécu dans l'islam. À un tel point que quand le professeur Hassan faisait les éloges des compagnons de Médine, il parlait d'eux en général, sans les citer par les noms, et il le citait lui en particulier, il disait qu'Allah récompense les compagnons de Médine, en particulier Abdullah ibn Amr ibn Haram, et il citait également Sa'd ibn Ubada, radiyallahu anhu. Abdullah ibn Amr ibn Haram, une de ses paroles est citée dans le Coran, dans surat Ali Imran. Selon les exégèses, Allah a cité une parole, sans dire clairement c'est qui l'a dit, mais les historiens, les exégèses, ils nous disent c'est Abdullah ibn Amr ibn Haram qui l'a dit. Et Allah Azza wa Jal l'a cité dans le Coran. C'est dans le verset dans lequel Allah Azza wa Jal dit وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ. Et que ceux qui ont commis l'hypocrisie sachent. Donc ici Allah il parle de qui ? Des hypocrites. Et il parle en particulier de quel contexte des hypocrites ? Des hypocrites pendant la bataille de Uhud. Vous vous rappelez que lorsqu'on a dit que l'armée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se dirigeait vers Uhud pendant la nuit du vendredi au samedi, un groupe d'hypocrites, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont retirés. Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, le chef des hypocrites, s'est retiré de l'armée et il a pris son groupe d'hypocrites avec lui et ils ont réussi à convaincre d'autres personnes de les rejoindre. À un tel point que 300 hommes ont quitté l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi ceux qui vont venir leur reprocher ce qu'ils sont en train de faire, il y a Abdullah ibn Amr ibn Haram. Et il va dire, donc le verset, qu'est-ce qu'il nous dit ? وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا. Et que ceux qui ont commis l'hypocrisie sachent, وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ اِدْفَعُوا. Et que lorsqu'on leur a dit, venez, combattez pour Allah, ou au moins, défendez-vous. Si vous ne voulez pas le faire pour Allah, au moins défendez votre ville. Vous voyez bien que l'armée des idolâtres est arrivée, ils veulent raser la ville de Médine, ils veulent nous attaquer. Donc venez combattre pour Allah, ou au minimum, vous ne voulez pas le faire pour Allah, défendez-vous. Comme l'a fait l'hypocrite Qusman, on l'avait dit. On l'a cité cette personne la semaine dernière. Et la semaine d'avant aussi. Donc il va leur... Et c'est qui dit cette parole ? C'est Abdullah ibn Amr ibn Haram, selon les exégèses. D'ailleurs, on a une version, même si elle n'a pas été forcément authentifiée, mais on a une version qui dit clairement, et c'est sur cette version que se sont basés les exégèses pour dire que c'est lui qui a dit cette parole, qui nous dit qu'Abdullah ibn Amr ibn Haram, lorsqu'il les a vus, et qu'ils commençaient à se retirer, il leur a dit « Ta'ala qatilu fi sabilillah wa idfa'u » Venez combattre pour Allah. Ou au minimum, vous ne voulez pas le faire pour Allah, vous êtes des hypocrites. Faites-le au moins pour défendre votre famille. Faites-le pour défendre votre ville, pour défendre votre honneur. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. Qu'est-ce qu'ils vont répondre les hypocrites? لو نعلم قتالا. Ils ont dit si nous savions, qu'il allait vraiment y avoir un combat, لاتبعناكم. Nous vous aurions suivi. C'est-à-dire le prétexte qu'ils sortent, c'est quoi? C'est que du bluff, ils sont venus là pour nous faire peur. Il n'y aura pas de combat. Ils savent très bien qu'il va y avoir combat. C'est pour ça qu'ils se retirent, ils ont peur. Ils sont lâches. Mais devant eux, pour leur montrer qu'ils n'ont pas peur, mais non, c'est que du bluff, vous inquiétez pas, il ne va rien y avoir. S'il y avait vraiment combat, on vous aurait suivi. Si on part et on se retire, c'est parce qu'on sait qu'il n'y aura rien. Rentrez, vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas des lâches. Ben oui, évidemment. Parce que si les hypocrites, si Abdullah ibn Ubay ibn Salul et son groupe d'hypocrites, ils disent aux autres qui ont des doutes et des hésitations, on a peur, on est lâche, cachons-nous, il n'y a personne qui va le suivre. Personne qui va les suivre. Mais lorsqu'il s'agit de dire, mais non, on n'a pas peur, mais de toute façon, on sait que c'est du bluff, c'est que du bluff, il n'y aura rien, rentrons chez nous. Là, les gens ils vont prendre cet argument comme prétexte. Mais non, je n'ai pas peur, mais écoutez, ils savent, ce sera que du bluff, il n'y aura rien. Non. Et donc, cette parole, elle a été citée dans le Coran. Et c'est qui l'a dit? C'est Abdullah ibn Amr ibn Haram, radiyallahu anhu. Une dernière version pour parler de Abdullah ibn Amr ibn Haram. Abdullah ibn Amr ibn Haram, radiyallahu anhu, son père, donc il est le premier à mourir. Jabir ibn Abdillah, le compagnon Jabir ibn Abdillah, son père c'est qui? C'est ce compagnon Abdullah ibn Amr ibn Haram. Et son père, il est le premier à mourir dans la bataille de Uhud. Taï. Et quelques temps après la mort de son père, un jour il va croiser le professeur sallam. Et il sera triste. Pourquoi il sera triste? Parce qu'il vient de perdre son père. Et qu'en plus d'avoir perdu son père, il doit s'occuper de ses sœurs et il doit s'occuper des dettes de son père. Donc ce n'est pas facile pour un jeune homme qui doit réfléchir à ses projets, mais finalement, entre guillemets, tous ses projets, ils peuvent attendre ou ils tombent à l'eau, parce que le plus urgent et la priorité, c'est quoi? C'est de s'occuper de ses sœurs et des dettes de son père. Et donc, il dit « لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي » Donc après la mort de mon père à Uhud, le professeur sallam m'a croisé et il m'a dit « مَا لِي أَرَاكَ مُنْكَسِرًا يَا جَابِرْ » Qu'ai-je à te voir ainsi affligé, attristé, ô Jabir? Et Jabir va lui répondre « اِسْتُشْهِدَ أَبِي » وَتَرَكَ لِي عِيَالًا وَدَيْنًا. Mon père est mort en martyr à Uhud, comme tu le sais. Et il a laissé pour moi des enfants, donc ses sœurs, et des dettes. Voilà ce qui m'attriste. C'est que j'ai perdu mon père, il est mort en martyr. Et en plus, il a laissé à ma charge mes sœurs, ses enfants, et des dettes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va vouloir le rassurer, donc il va lui dire « Afala ubashiruka bima laqiya Allahu bihi abaka » Ne veux-tu pas que je t'annonce la bonne nouvelle de comment Allah a accueilli ton père lorsqu'il est mort? Et Jabir ibn Abdillah, il va dire « Bala ya Rasulallah » Si, ô messager d'Allah, dis-moi comment Allah il a accueilli mon père lorsqu'il est mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui dire ما كلم الله احدا قط الا من وراء حجاب فاحيا الله اباك وكلمه كفاحا. Allah n'a jamais parlé à personne directement si ce n'est à travers une barrière, c'est-à-dire à travers un intermédiaire. Allah azza wa jalla, il parle aux êtres humains à travers intermédiaires, sauf pour le prophète Moussa, alayhi salam, et le prophète Mohammed, alayhi salam. Et parmi les autres, c'est que quand Allah azza wa jalla décide de parler à un être humain, même dans le delà, c'est avec un intermédiaire, à travers une barrière, yani. Et on voit hijab, c'est pas forcément un intermédiaire, quelqu'un qui va transmettre la parole de Dieu, mais sans voir directement Allah. C'est ça que ça veut dire. Et ici, le professeur Hassan lui dit, par contre, Allah, il a fait revivre, donc il est, ton père est mort, Allah l'a fait revivre et il lui a parlé directement. Alors qu'il le fait avec personne. C'est-à-dire, ton père, c'est pas n'importe qui. Il y en a plein d'autres des compagnons qui sont morts à Uhud. Il y a même l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hamza. Mais à propos de qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah lui a parlé directement? C'est à propos de Abdullah ibn Amr ibn Haram. Et il lui dit, il lui a parlé directement. Alors qu'il ne l'a fait avec personne d'autre. Faqala lahu, ya Abdullah, tamanna alayya u'tik. Ô Abdullah, désire, demande-moi ce que tu désires et je te le donnerai. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire à Jabir ibn Abdillah, tu sais ce que ton père a dit, ce qu'il a demandé? Il va dire, an tuhiyani fa uqtala fika thaniyatan. Fais-moi revivre afin que je meure encore une fois pour toi. Fais-moi revivre. Pourquoi? Pour aller m'occuper de mes dettes? Non. Pour que j'éprouve et je ressente encore une fois ce plaisir de mourir pour toi, ya Allah. Ce n'est pas suffisant une seule fois. Donc le professeur Hassan est en train d'informer Abdullah ibn Amr ibn Haram de ce que son père a répondu à Allah Azza wa Jal. An tuhiyani fa uqtala fika thaniyatan. Que tu me fasses vivre afin que je puisse mourir pour toi une autre fois encore, une seconde fois. Et là, le professeur Hassan dit ce que Allah Azza wa Jal va dire à Abdullah ibn Haram, il va lui dire « Qad sabaqa minni annahum ilayha la yurja'un. Qad sabaqa minni annahum ilayha la yurja'un. » Mais ma parole a devancé. Mon engagement a déjà devancé. Je ne peux pas répondre à cette requête. Pourquoi? Parce que j'ai déjà dit, avant que tu fasses toi, Abdullah ibn Amr ibn Haram, cette demande, j'ai déjà dit que plus personne, quand il est mort, il ne peut y revenir. Revenir et yarni sur terre. Khlas. Donc demande autre chose. Et on verra aussi, lorsqu'on fera l'enterrement des martyrs de Uhud, des compagnons qui vont mourir à Uhud, que Jabir ibn Abdillah, on va lui apporter son père recouvert d'un drap. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, les morts, les compagnons morts en martyr à Uhud vont être mutilés, leurs corps vont être mutilés par les idolâtres. Avant qu'ils ne quittent le champ de bataille, ils vont d'abord mutiler les corps des musulmans et ensuite ils vont quitter le champ de bataille. Et parmi les corps qui vont être gravement mutilés, il y a celui de Abdullah ibn Amr ibn Haram. Et donc les compagnons, quand ils veulent rendre le corps à son fils Jabir ibn Abdillah, pour pas qu'il soit choqué de voir son père dans cet état-là, il le recouvre d'un drap. Et lui, il veut le voir. Et il est au courant. On lui a dit, ton père a malheureusement été mutilé, donc laisse-le recouvrir. Et donc il va tirer le drap pour le voir malgré tout. Et les compagnons vont l'en empêcher. Et il essaye malgré tout de tirer le drap. Le professeur Hassan va s'interposer, il va dire, laissez-le faire. Il est au courant, il sait. On l'a prévenu. Et s'il insiste, si c'est important pour lui malgré tout et qu'il se sent assez fort et prêt à le voir dans cette condition, laissez-le faire. On a fait ce qu'on devait faire hier, mais on l'a prévenu. Non, mais ça, d'ailleurs, dans tous les hadiths, il y a plusieurs versions, comme on le verra à la fin de la bataille de Uhud, qui parlent des funérailles des martyrs, et ça nous rapporte beaucoup d'éléments pour les funérailles des musulmans. Parmi lesquels celui-là, par exemple, quand quelqu'un meurt et qu'il est dans une situation qui n'est pas forcément agréable visiblement, il n'est pas forcément visible, etc. Là, on doit essayer de dissuader les personnes les plus proches de le voir, mais s'ils insistent et qu'ils ont bien compris dans quelle situation est leur proche défunt et qu'ils insistent, on n'a pas à leur interdire. Wallahu a'lam. On peut leur recommander, les conseiller, mais à la fin, ça reste leur choix si vraiment ils sont persuadés qu'ils vont pas être traumatisés ou choqués. Naam. Quelqu'un peut mourir d'un accident de voiture, il peut avoir de graves blessures visibles, apparentes, etc. Et quelqu'un qui a un proche qui est décédé, il veut toujours le voir. Très souvent, les personnes demandent à le voir. Donc, si on sait qu'il n'est pas convenable de le voir ainsi, on prévient. Et ensuite, si la personne insiste, la famille insiste, c'est leur droit. C'est ce que ce hadith nous donne comme sagesse. Et donc tout ça, on aura le temps de le voir lorsqu'on arrivera à la fin de la bataille de Uhud et qu'on parlera de la prière funéraire que le professeur Hassan fera pour les compagnons morts en martyr à Uhud et leur enterrement. Donc ça, c'est ce qui concernait Abdullah ibn Amr ibn Haram. On peut à présent commencer à parler du compagnon dont on avait commencé à parler à la fin du dernier épisode. C'est le compagnon Hanzalah ibn Abi Amir radiyallahu anhu. Hanzalah ibn Abi Amir, c'est son père était un hypocrite. Lui, il est compagnon et son père était hypocrite. Abu Amir al-Fasiq. On a déjà dit que son père, qu'est-ce qu'il avait fait lorsque le prophète Asma a fait le hijra à Médine et que les musulmans ont gagné la bataille de Badr. Abu Amir al-Fasiq, cet hypocrite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté la ville de Médine et il a montré ouvertement, alors qu'au début il ne montrait que l'hypocrisie, il a ouvertement montré son hostilité au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a rejoint le camp de la Mecque, il a quitté Médine, il a rejoint le camp de la Mecque et il a dit, il incitait les idolâtres de la Mecque à se venger de Badr. Et il leur disait même, je suis un notable et le chef des Khazraj, de la tribu des Khazraj à Médine. Donc, lorsque vous arriverez pour la bataille de Uhud, ne vous inquiétez pas, il me suffira de parler à ma tribu et ils quitteront l'armée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc Abu Sufyan, lorsqu'il va parler aux gens de Médine, il va dire, oh, vous les gens de Médine, nous n'avons aucun problème avec vous. Quittez l'armée de votre prophète et nous ne vous ferons aucun mal, nous n'attaquerons pas votre ville. Laissez-nous entre nous et nos cousins, en parlant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons de la Mecque. Évidemment, les Ansar vont refuser. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire, Abu Sufyan? Il va aller voir Abu Amir al-Fasiq, il va dire, ta promesse, tu nous avais promis que tu pouvais les convaincre. Et donc Abu Amir al-Fasiq, il va venir et il va dire, est-ce que vous me reconnaissez? Je suis Abu Amir al-Rahib. Parce que les non-musulmans l'appelaient ainsi, il était surnommé comme ça, même les compagnons, avant qu'ils ne deviennent musulmans, ils le surnommaient Abu Amir al-Rahib. Rahib, ça veut dire le moine. L'ascète, celui qui est connu. C'est un compliment, c'est une éloge. Et donc, il va dire, c'est moi Abu Amir Rahib, est-ce que vous me reconnaissez? Et ils vont dire, tu n'es pas Abu Amir Rahib, tu es Abu Amir al-Fasiq. Donc ceux qu'il est venu convaincre de se retirer de l'armée, ils commencent déjà par l'insulter. Tu n'es pas Abu Amir Rahib, tu es Abu Amir al-Fasiq. Le corrompu. Tu es Abu Amir, le corrompu. Et donc là, quand ils vont lui dire ça, il comprend tout de suite qu'il ne sert à rien d'aller plus loin. Et donc il revient voir Abu Sufyan et il lui dit « لَقَدْ أَصَابَ قَوْمِ مِنْ بَعْدِ شَرْ » Il est arrivé un mal à mon peuple après moi. Ben, je ne peux rien faire. Ils ont été atteints, depuis que je les ai quittés, voilà, ils ont été atteints d'une grave maladie. Non. Et donc cet homme-là, qui a fait tout ce tort, son fils, c'est qui? C'est un des plus fidèles compagnons du professeur sallam. Hanzalah ibn Abi Amir, radiyallahu anhu. Et ces exemples, ils nous montrent quoi aussi? Ils nous montrent comment certains compagnons étaient déchirés. Il y avait des compagnons de la Mecque qui sont là à Médine, qui sont là dans l'armée du professeur sallam, mais en face, dans l'armée des idolâtres, il y a leur père, il y a leur frère, il y a leurs cousins, leurs voisins, leurs anciens amis. Donc ce n'est pas facile à gérer cette situation. émotionnellement parlant. Tout comme il y a des compagnons de Médine, il y a leurs parents, comme Hamdala ibn Abi Amir, qui sont ouvertement hostiles au professeur sallam. D'autres, ils ont des parents qui sont hypocrites, comme le compagnon Abdullah ibn Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Son père c'est qui? C'est Abdullah ibn Ubay ibn Salul, et il était le chef des hypocrites. Et pourtant, lui, le fils, Abdullah ibn Abdullah ibn Ubay ibn Salul, était un des plus fidèles compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. على كل حال حنظلة ابن أبي عامر رضي الله عنه il va donc être présent à la bataille de Uhud alors qu'il avait, comme on l'a déjà expliqué, toutes les raisons de ne pas y assister, puisque حنظلة ابن أبي عامر cette nuit-là, la nuit où il est sorti pour Uhud, c'est sa nuit de noces. Il s'est marié le jour d'avant et c'est sa nuit de noces. Et lorsqu'il va entendre, la version elle nous dit lorsqu'il va entendre Al-Ha'i'a. Al-Ha'i'a, c'est le son qui fait peur. L'appel pour la mobilisation générale. Il va l'entendre, il va quitter son épouse sans même faire Al-Ghusl, le lavage rituel, les grandes ablutions. Et il va rejoindre l'armée. Pourquoi il ne fait pas les grandes ablutions? Parce qu'il a peur de rater l'armée. Et donc il quitte son mariage. Il quitte son mariage. Il quitte sa nuit de noces à lui. Ce n'est pas la nuit de noces de quelqu'un. Ou c'était juste un invité à un mariage et il quitte le mariage. Non. Déjà même pour un invité, on pourrait dire, bon, il y a invité, khlas. Il y a autre chose, lui. Il y a une occupation. Lui, c'est son mariage. Il quitte son mariage. Non. Ça peut arriver ou non, ça peut arriver. La preuve, celle-là. Au moins une fois, pas très longtemps, à peine il y a un mois, un jour, quelqu'un m'invite et on me dit, est-ce que tu peux venir à tel mariage, Naram? Par contre, le marié, il ne sera pas là, il sera en voyage. Khair, Inch'Allah. Chacun a sa tradition. Chacun fait comme il veut. Naram, gharib. Ala kulli hal. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas dans le coin, donc la personne ne se reconnaîtra pas. Hamdallah ibn Abi Amir va quitter sa propre nuit de noces pour rejoindre l'armée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque les deux camps s'affrontent et que la bataille générale commence, lui, il a un plan dans sa tête. Hamdallah ibn Abi Amir, il a un plan dans sa tête. Et c'est quoi ce plan? C'est de traverser tous les rangs des idolâtres et d'aller trouver le chef des idolâtres qui est Abu Sufyan. Radiyallahu anhu, parce que même s'il a, à ce moment-là, il n'est pas encore musulman, on sait plus tard qu'il deviendra musulman et qu'il deviendra compagnon du prophète sallam. Donc on dit radiyallahu anhu. Mais à ce moment-là, il est le chef des idolâtres et il est protégé par toute l'armée parce qu'il est au milieu de l'armée. Et donc, Hanzala ibn Abi Amir radiyallahu anhu, comme on l'avait dit la semaine dernière, il va traverser toute l'armée et il va se retrouver face à Abu Sufyan. Son objectif, c'est quoi? C'est de faire tomber Abu Sufyan, parce qu'il se dit, si j'arrive à faire tomber Abu Sufyan, à tuer Abu Sufyan, ben la guerre, elle va cesser. L'étendard y est tombé, il n'y a plus personne parmi les idolâtres qui le ramasse, il ne reste plus que leur chef, qui les incite, qui les galvanise, qui leur dit élevez Hubal, il leur dit Ulu Hubal, c'était son slogan à Abu Sufyan et le slogan des idolâtres à Uhud. Il leur disait, élevez la divinité Hubal. Faites-le pour Hubal, d'une certaine manière. Et donc, il se dit, si j'arrive à le tuer, lui, ce sera fini. Il n'y aura pas plus de morts. Les idolâtres vont s'enfuir et la guerre sera finie. Et donc, il arrive et il provoque Abu Sufyan, ce jeune homme, qui vient de quitter sa nuit de noces, ya ibadallah. Il va provoquer le chef des idolâtres, Abu Sufyan, en duel. Et Abu Sufyan accepte. Et donc, ils se mettent à se battre. Et Hanzala ibn Abi Amir, radiyallahu anhu, n'arrive pas, pour l'instant, à le tuer, mais il arrive à avoir le dessus. Il met en grande difficulté Abu Sufyan. Et les gens autour, les idolâtres autour, ils le voient. Ils ne font rien au début, parce que c'est un duel, c'est un tête-à-tête. Et donc ils laissent leur chef tout seul, parce qu'il a accepté le duel. Et donc les règles du duel, c'est un contre un. Mais ils voient que leur chef commence. Et à un moment, il tombe par terre, il se relève vite, il reçoit un coup, il est sur la défensive, Yann. Il n'arrive pas à porter des coups contre Hamzala ibn Abi Amir, mais c'est Hamzala ibn Amir qui a le dessus. Et donc à ce moment-là, parmi les idolâtres, il y a un homme qui va venir à la rescousse d'Abu Sufyan. Parce que cet homme, il va préférer transgresser les règles du duel plutôt que de faire courir le risque que leur chef meure et que la bataille soit terminée. Qui est cet homme? Et comment il va faire pour venir à la rescousse d'Abu Sufyan? Ça, c'est ce qu'on verra la fois prochaine. Bidnillahi tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum pour votre attention. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Juste la semaine prochaine, Inch'Allah, ce sera le Ramadan. Donc, on fera le Dars après l'Asar et non plus après le Maghreb. J'imagine que si je viens après le Maghreb, je serai tout seul. Donc, ce sera après l'Asar, Inch'Allah.